Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de lancer un nouveau format pour Dream Team, la Ligue des futurs champions. Et voilà l'idée. Derrière Decathlon, l'équipe Nike, beIN Sport, Mediapro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport, naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîtes qui deviendront les champions de demain. Sur un format Pitch-moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unit qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leur ambition. Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des futurs champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format Ligue des futurs champions avec une boîte qui a fait pas mal parler d'elle ces derniers temps et avec un fondateur qu'on a beaucoup vu ces derniers temps également. Salut Arthur.
Bonjour.
Salut, merci beaucoup d'accepter cette invitation sur Dream Team. On va parler de l'expérience tactile et immersive pour les déficients visuels. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Avec plaisir. Donc je suis Arthur Chazelle, je suis le fondateur de TouchSouci. Donc c'est une entreprise qui a un peu plus d'un an et demi et on développe une solution qui permet au public non-voyant de suivre un événement sportif.
Ouais, et je l'ai enchaîné directement sur ce que fait la boîte. Habituellement, je demande toujours un peu le parcours des entrepreneurs et des entrepreneuses que je reçois. Et j'ai surtout introduit avec le fait que tu aies reçu pas mal de prix, que tu es pas mal mis en avant ces derniers temps. J'ai pour habitude souvent de recevoir les lauréats et les gagnants du prix Sportsora. Et c'est aussi dans ce cadre-là que je voulais qu'on se voit. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à Benjamin Carlier qui m'accompagne parfois sur le podcast et qui m'a dit depuis beaucoup de temps qu'il fallait qu'on se rencontre. Donc, on va parler évidemment beaucoup de TouchSouci et merci pour cette rapide introduction. C'est évidemment une solution et un marché hyper intéressant à explorer ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes, mais surtout au prisme de tes expériences professionnelles qui ont précédé ton aventure entrepreneuriale.
Oui, avec plaisir. Donc déjà, un immense merci de pouvoir m'entretenir. Peut-être que j'aurai quelques petits détails à apporter. Je pense que le projet qu'on développe, il est quand même assez unique en termes de business model, de cible, même de valeur. Donc je pense que c'est toujours intéressant de les présenter. Et avec plaisir, donc... Moi, sur mes précédentes expériences professionnelles, bon, ça va être assez rapide parce que là, j'ai 22 ans et j'ai commencé du coup le projet à l'âge de 20 ans, donc j'ai pas eu d'éléments avant. Mais peut-être on reviendra sur mes études avant, mais en tout cas,
ouais,
moi,
bien sûr.
Ouais, pendant mes études, j'ai été photographe et un petit peu vidéaste en parallèle. C'était à l'origine une passion qui s'est transformée un petit peu en métier. Et j'ai notamment eu la chance d'être photographe du maire de Toulouse pour les élections municipales. Puis après, j'ai beaucoup travaillé sur les élections. Régionale, cantonale, législative, j'ai à peu près tout fait. Donc, ça a été assez intéressant. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai gagné un petit peu d'argent, que j'ai pu monter ce projet-là. Et donc, ce que je faisais exactement, c'est que j'étais en auto-entreprise, mais très classique. Et je faisais exactement de la photographie événementielle, donc en public.
Ok. Bon, bah, du coup, tu as coché pas mal de cases à plusieurs titres. Je pense que tu es le plus jeune invité que j'ai eu sur le podcast.
Ouais.
Et en effet, avec... était le premier, je crois, alors je me trompe peut-être, à adresser dans l'écosystème sport et dans le monde du sport, parce que c'est un peu ça le fil rouge du podcast, des publics qui sont en situation de handicap. Donc je suis ravi. Tu peux m'expliquer comment t'es venu l'idée de TouchSouci au regard de tes expériences précédentes? C'est pas évident que ça t'amène vers ça?
Oui, tout à fait. Bah, c'est déjà l'inclusion des personnes aveugles ou enfin non-voyantes ou malvoyantes dans le sujet d'événements sportifs. C'est vraiment un sujet qui est quand même très précis. Vraiment, c'est un sujet de niche. Donc, effectivement, d'y arriver, c'est pas forcément le hasard total. Et donc, moi, déjà à ce moment-là, donc on était en 2022, et donc en janvier 2022, j'ai vu une vidéo qui était très virale sur Internet, qui avait fait quasiment un demi-milliard de vues, je crois, donc vraiment assez connue. Et donc, dans cette vidéo, on est dans les tribunes d'un stade à Bogota. Et on voit une personne qui vient décrire le match à son ami dans les tribunes directement. Et pour ce faire, elle lui guide les mains sur un petit carton en bois où on voit les lignes du terrain, etc. Donc moi, à l'époque, j'étais étudiant en informatique. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que c'était une excellente idée parce qu'un match, c'est essentiellement visuel. Donc le retransmettre par le toucher, ça a beaucoup plus d'intérêt que de le retransmettre par l'audio, etc. Donc ce constat était en partie vrai, effectivement. Et donc moi, tout le projet est venu de là. Puis il y a eu aussi un écho sur mon passé... un peu sur le parcours que j'ai pu faire avant, mais ça a été quand même un hasard. J'ai jamais été confronté, on va dire, à cet handicap auparavant.
Ouais, donc tu vois cette vidéo, de là à se dire « je vais créer une boîte », tu as un ancrage entrepreneurial dans ta famille. C'est quoi un peu le background familial et tu parlais d'un écho par rapport à ta vie d'avant, de quoi tu parles?
Ouais, carrément. Donc, effectivement, donc, déjà sur mon milieu social, on va dire, moi j'ai ma mère qui est institutrice, qui m'a beaucoup aidé pour les études, j'y reviendrai après, et mon père qui est entrepreneur. Donc, j'ai quand même eu un peu cette fibre un peu entrepreneuriale. Mais voilà, moi à ce moment-là, je sortais, je redoublais en fait ma faculté, donc je redoublais ma deuxième année typiquement de licence en informatique. Donc, j'étais pas au top de ma forme. Et voilà, la faculté, l'université, j'en avais un petit peu marre. Et donc, j'avais quand même la volonté moi-même de créer un projet un peu plus gros que celui que j'ai déjà pu créer en tant que plus ou moins freelance dans la photographie ou la vidéo. Et donc, je cherchais quand même un projet à accrocher. Et moi, c'est vraiment en voyant cette vidéo-là que ça m'a donné envie de le faire. Et je pense que mes premières intentions, c'était surtout un enjeu technique qui était vraiment important à travailler. Et après, j'ai découvert aussi l'aspect sociétal qui m'a énormément plu. Et autrement, si je précise un petit peu pourquoi ce projet m'intéresse quand même énormément par mon profil, c'est que j'imagine que ça s'entend pas forcément, mais je suis quelqu'un qui est très très mauvais de base aux études. Vraiment, c'était très très compliqué. En sixième, en sixième, il y a un test de lecture qui est fait par tous les élèves. Moi, j'ai quelques trucs que je me souviens, mais j'avais une note négative. Donc, on peut vraiment dire qu'en sixième, je ne sais quasiment pas lire. Et sans trop m'avancer, mais en général, quand en sixième, tu ne sais pas lire, c'est une très mauvaise nouvelle. Il avait été question de m'orienter dans des filières vraiment spécifiques. Et même après, mes professeurs m'ont dit que j'aurais jamais mon brevet ni mon bac. Voilà, ça a été très compliqué. Ma mère m'a beaucoup aidé pendant toutes ces années. Et en résumé, je pense que... j'ai réussi à m'adapter au système. Mais du coup, pour un projet comme Touch aussi, pour moi, ça m'apporte énormément parce que je travaille pour adapter davantage le système à ceux qui ne peuvent pas s'adapter par eux-mêmes. Typiquement, le handicap visuel.
C'est intéressant.
bloqué dans son handicap, ils n'ont pas les moyens de sortir.
Enfin, c'était des difficultés scolaires, c'était une inadaptation au mode d'enseignement. Ta maman qui était un stit. Enfin, comment toi t'expliques ces difficultés scolaires tu vois, vous avez diagnostiqué, je sais pas.
Vraiment quand même une très très grande difficulté qui maintenant se voit plus, mais avant ça a été vraiment très compliqué. Et bon, je suis pas très bon dans tous ces détails-là, mais trouble de la concentration, un peu d'hyperactivité.
Dyslexique,
ce genre de choses un peu au max, donc ça a été vraiment compliqué. Et je passe un peu de temps à l'expliquer, ce parcours qui était vraiment compliqué pendant mes études. C'est pas pour me dire voilà, j'ai réussi à surmonter tous les défis, etc., mais c'est davantage pour dire que quand j'ai redoublé ma deuxième année d'informatique, si je prenais un peu de recul, j'étais pas dans une pleine réussite de tout ce que j'ai fait. Et je pense que c'est important de le voir pour montrer que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément réservé à une élite qui fait des très grandes écoles ou quoi que ce soit. Moi, à ce moment-là, je pense que j'étais quasiment des plus mauvais de la classe. J'avais jamais vraiment brillé dans la classe, quoi. Et donc, c'est pas pour... Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas de diplôme ou quoi que ce soit pour pouvoir se lancer.
Mais du coup, est-ce que tu as perdu confiance à cause de ce relatif échec scolaire? Et quand tu as attaqué l'entrepreneuriat, est-ce que tu as attaqué l'entrepreneuriat avec un peu ce bagage d'échec que tu avais... connu en école, tu vois, ou est-ce que ça a été un salut total de se dire, c'est une nouvelle dimension quasiment que j'explore et c'est plus du tout les mêmes codes et j'ai complètement mes chances.
Moi je me suis quand même vite rendu compte que j'étais pas le meilleur, j'allais jamais être le meilleur en tant que développeur ou informaticien, donc il fallait quand même un peu que je trouve ma propre voie. Et donc, j'étais quand même un peu en échec, quoi. Le système. À un moment, j'ai dit, franchement, je peux plus y arriver, donc fait que je sorte. Donc, ce projet, ça a quand même été une belle ouverture. Donc voilà.
Tu commences ça en 2021-2022, il y a un peu plus de deux ans, il y a deux ans, après avoir vu cette vidéo, en effet, je vois très bien, je me rappelle très bien de cette vidéo. Tu n'as pas forcément un background dans le traitement des personnes en situation de handicap. Au-delà, tu vois cette vidéo, tu as une émotion particulière ou tout de suite tu penses au business? Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as ce déclic?
Ça a été assez intéressant parce que du coup là c'était vraiment mon premier projet, j'en ai pas eu d'autres auparavant, mais du coup j'ai pas eu des réflexes qu'on pourrait avoir avec un peu plus d'expérience. Et donc quand j'ai vu cette vidéo, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et pour moi, mes premières motivations réellement, c'était de dire ça peut vraiment être automatisé en faisant une supposition que la donnée sportive existait. Et donc, on pouvait vraiment le diffuser dans le monde entier. Pour moi, ça m'a semblé, il y avait une opportunité dans ce sens-là. Mais j'ai réfléchi que, je pense, très longtemps, peut-être fin 2022 ou plus tard encore, me réfléchir c'est un business model ou autre. Donc, d'abord parti sur la conception d'un produit que la conception d'un business model ou autre, et c'est pas forcément quelque chose que je pourrais conseiller à d'autres. Mais cela dit, peut-être qu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, si je reprenais le même projet que celui-ci, je me dirais non, mais là c'est impossible, il y a pas de, il y a pas de, pas de business model viable, quoi. Donc.
Ouais. Parce que oui, il y a un autre élément qui te rend assez, encore une fois, unique dans les invités que j'ai eus, c'est que tu fais du hardware. Tu fais des produits. Là où je reçois souvent des gens qui ont des softwares ou qui font du service. Développer un proto, développer un produit, ça a été, comme tu le dis, finalement la première étape, ta première étape d'exploration de ce projet. Oui. Plein d'autres entrepreneurs auraient pu d'abord dire bon bah c'est quoi la taille du marché, c'est quoi l'élasticité prix du client. Toi t'as pas du tout fait ça a priori. Raconte-nous comment on se lance à développer un produit, peut-être en montrant la vidéo d'une nana à Bogota sur une boîte en carton. Et t'as dit aux prototypeurs et aux usines avec lesquelles tu bosses, bah je voudrais faire un truc comme ça, mais un peu techno. Enfin, raconte-nous un peu ce procédé.
Ouais, carrément. Bah c'est vrai que déjà faire un projet industriel en 2024 et en France, c'est extrêmement compliqué. Ça nécessite en général énormément de capitaux. Et même il y a très peu de projets hardware maintenant en France. Donc
c'est compliqué. Puis c'est difficile de les financer.
Mais je dirais que oui, tout à fait, oui. Déjà pour expliquer un petit peu à quoi ça ressemble cette tablette tactile, c'est à peu près grand comme un ordinateur de 15 pouces en gros, qui va être replié, et donc ça fait une quinzaine de centimètres de haut, et on a du coup le terrain qui est représenté en relief avec des lignes de couleurs, etc., donc toutes les lignes vraiment fidèles. On a un curseur qui vient se déplacer en temps réel pour représenter le mouvement du ballon, de la vibration et de l'audio en parallèle. Donc c'est quand même une chose qui est assez complexe, et je pense que sur les premiers jours du projet, pour moi, c'était surtout un défi technique. Il n'y avait pas forcément de volonté de diffuser à grande échelle ou vraiment de créer l'entreprise par la suite. Donc, toutes ces questions hardware ou la barrière, un petit peu, je ne me la suis pas trop imaginée. Donc, je suis très vite passé à une étape de prototypage. Mais en fait, dès les premiers jours. Et voilà, donc en fait, ça s'est fait vraiment étape par étape.
Voilà, donc, mais du coup, c'est du hardware. Donc, mais c'est du hardware qui a une brique aussi software, parce que je suppose qu'elle est connectée, puisqu'elle doit suivre les mouvements des joueurs. Pour rappel, c'est un device et un hardware qui permet dans les stades aux déficients visuels de vivre sensitivement, tactilement le match et d'être quand même dans l'ambiance du match avec les hurrahs des supporters. Mais par contre, il faut effectivement que le ballon et ce que ressentent les déficients visuels, il faut que ça soit corrélé, connecté à ce qui se passe effectivement sur le terrain. Comment ça marche cette connectivité?
Oui, carrément. Donc en fait, sur le sujet sur lequel du coup on s'attaque, c'est vraiment la déficience visuelle. Et déjà, nous, on a créé ce projet-là en particulier parce que mais ça, c'est des choses que j'ai découvert du coup par la suite, mais que je connaissais pas à l'origine. C'est que dans le domaine sportif, il y a extrêmement peu de stades accessibles au public non voyant. Et la raison, c'est que l'audio description sportive, elle est relativement rare, même quasiment que dans 3% des événements sportifs. Donc, c'est vraiment très rare, puis limité à une langue. Donc, à des JO ou autres, ça devient très vite limité. Et après, la radio sportive, c'est pas du tout adapté pour le public non voyant en stade, parce que ça a quasiment 20 secondes de latence. Donc déjà, il y a un immense manque. Et donc, cette question de diffusion de la solution, elle était essentielle dès le début. Enfin, un projet ne peut pas être viable s'il se diffuse uniquement sur une petite région, on va dire. Et donc, on a utilisé de la donnée sportive. Et donc ça effectivement, il y a deux gros blocs sur le projet. Il y a le bloc hardware et le bloc software. Et le bloc hardware, peut-être si on peut en parler un peu, mais...
Bien sûr. Ça a été... On rentre dans le... Tu soulèves le capot de Touch2C, là. Tu nous aides à comprendre.
Donc, effectivement, bloc hardware très compliqué. Et donc, nous, c'est vraiment une tablette tactile. Et donc, sur les premiers jours, parce que moi, quand j'ai créé la société, déjà, elle a été créée avec 6 000 euros de capital social à l'origine. Donc, 6 000 euros qui étaient pour déposer un premier brevet qui a été validé, d'ailleurs, aujourd'hui. Et c'est pas, en fait, pas suffisamment d'argent pour pouvoir embaucher des gens. Donc, j'ai contacté quelqu'un sur un groupe Discord, sur un Fab Lab de la fac, qui est finalement devenu le CTO, donc chef technique du projet, qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle Frédéric Genalé. Et donc, on a commencé dans un Fab Lab, en fait, vraiment à imprimer des prototypes. C'était du plexiglas, donc on faisait des découpes de plexiglas au laser, donc ça prend vraiment une éternité. Et le plexiglas, quand ça brûle, ça échappe en plus des gaz qui sont vraiment nocifs, c'est horrible, vraiment, ça sent très mauvais. Et donc après, le plexiglas marchait pas très très bien, c'est hyper lourd, ça, avec le temps ça se déforme, etc., donc trop limité, parce qu'à l'époque on avait des pistons qui remontaient pour simuler le mouvement du ballon, en fait beaucoup trop compliqué. Et donc là on est passé sur les technologies d'impression 3D, Donc là, on a de la chance, en fait, ça coûte très peu cher de faire tout ça.
Ouais.
Et donc là, toujours au Fab Lab de la fac, on a commencé à...
De la fac de...
De Paul Sabatier, de Toulouse, oui.
Ouais, de Toulouse.
30 000 personnes, c'est une très grosse fac.
Ouais.
Et donc là, on a commencé à passer sur l'impression 3D. Et là, on a eu une première limite, c'est que toutes les imprimantes 3D d'une faculté, enfin d'une université en France, elles sont monopolisées par des gens qui impriment des vaisseaux Star Wars à l'échelle 1/400. Et ce, pendant des semaines entières. Ça fait un peu péter un plomb. Mais, du coup, on a passé un peu de temps comme ça. Puis après, on en a très vite acheté. Ça coûte entre 100 et 1000 euros, quoi.
Mm-hmm.
Très vite retrouvé en avoir 6 dans mon appartement. Donc, moi, je suis à Toulouse et donc j'habite avec mes deux frères.
Mm-hmm.
Donc, ça paraît pas comme ça, mais 10 imprimantes 3D, 6 imprimantes 3D dans un appartement.
Ça prend un peu de place. Ouais.
H24. Ouais, ça prend de la place. Et surtout, ça fait énormément de bruit et ça fait beaucoup de chaleur.
Mm-hmm.
Vraiment beaucoup de chaleur. Donc là, c'était surtout, on a des imprimantes qui étaient chimiques avec des produits, enfin des imprimantes résine, donc ouais, avec de l'alcool, etc., qui s'évapore. Enfin, c'était vraiment horrible.
Et ça consomme un peu d'électricité. J'espère que tu as réussi à négocier un partage un tiers. Hein,
oui, ça consomme énormément. Ouais. C'est hyper sympa. Et donc ça, ça a été une grosse phase de prototypage. Je pense qu'elle a quasiment duré, elle a duré un an quasiment. Et en fait, je pense qu'on doit notre réussite à cette phase de prototypage. On a utilisé des concepts qui sont assez connus, mais c'est le POC ou le MVP, c'est-à-dire le minimum viable product. Donc on s'est approché de la version la plus simple qui était fonctionnelle du projet, et c'est ce qu'on a du coup développé nous-mêmes. Donc on a réussi à faire des prototypes fonctionnels en 3D, entièrement en 3D, même les poulies, tout était en 3D. Pour les voir encore sur internet, celles qui sont toutes en noir ou avec des pistons. Et donc on a fait ça, c'était très compliqué.
Parce que ce que tu expliques, l'imprimante 3D, il faut quand même la paramétrer. Là, on parle de prompt dans l'IA, mais c'est un peu pareil pour.
Ah bah là, ouais,
mais 3D, faut vraiment prompter, enfin pas prompter, mais faut donner un cahier technique qui va suivre. Mais,
ah ouais, clairement.
Encore une fois, t'as jamais fait ça avant. C'est ton CTO qui t'aide sur cette partie-là.
Tout l'aspect informatique, moi tout l'aspect hardware.
Ouais, ok.
Donc on avance étape par étape. Et effectivement, l'impression 3D, c'est assez simple pour faire des petites figurines. Mais dès qu'on va rentrer dans les détails ou autre, ça devient très vite complexe. Et c'est pour ça que nous, elle tournait vraiment H24. Parce qu'en gros, on avait des cycles d'évolution qui étaient très rapides, de l'ordre de 1 ou 2 semaines. Et après, on allait les faire tester. Puis on avait des cycles très rapides comme ça. Et c'est grâce à ces imprimantes 3D qu'on a pu identifier le produit qui était réellement utile.
Ouais.
Et pas faire de mauvaises étapes ou de ralentir.
Je me permets de te couper, désolé. T'as ton MVP au bout de quelques mois. Tu t'en fais quoi de ce MVP? Est-ce que avant ton MVP, t'as déjà essayé de questionner tes futurs clients potentiels, à savoir des déficients visuels, de dire est-ce que ça vous intéresserait, est-ce que ça marcherait, est-ce que combien vous mettriez pour tel device? Comment ça s'est passé en parallèle de la prototypisation, tu vois, prototypage, voilà, je suis horrible, n'importe quoi, j'invente un nouveau mot, désolé.
Tout à fait. Bah, en fait, interroger le besoin, quand même, ça a été une des priorités sur le même temps. Donc, vraiment un projet qui était centré uniquement sur le développement produit pendant les premières années. On a 2 ans, mais pendant les premiers mois au moins. Et donc, pour ça, j'avais contacté quasiment une trentaine d'associations par mail.
Mm-hmm.
Et évidemment, aucune réponse, que c'est un milieu qui est très fermé. Et en fait, c'est qu'on a, par désespoir, j'étais allé dans une association à Toulouse et j'ai rencontré une des personnes qui est devenue par la suite notre ambassadrice, qui s'appelle Karine, qui nous a énormément aidé, qui nous a ouvert à ces portes-là. Et on est très vite rencontré des passionnés de sport qui connaissaient les problèmes qu'on souhaitait cibler et qui nous ont confirmé par des prototypes qu'on déplaçait manuellement à la main, etc. Qui nous dit, OK, là, il y a vraiment une idée de malade pour nous. Donc, on savait qu'on solutionnait le problème de la meilleure façon. Voilà, maintenant, il fallait vérifier que ça soit un problème qui était applicable vraiment à grande échelle, etc. Quoi, que ce soit.
Ouais. Alors, raconte-nous comment tu t'es assuré que c'était un produit applicable à grande échelle.
Ouais.
Et à quel moment, en fait, tu es rentré dans un mindset très business où tu dis, bon, bah, c'est bon, mes imprimantes 3D avec mes frères et mon petit pote CTO qui développe le soft, mais maintenant, est-ce qu'on va réussir à le vendre, toi?
Oui, tout à fait. Bah, en fait, ça a été très compliqué, hein, parce qu'un projet comme le nôtre, en fait, aujourd'hui, on aurait cette capacité-là, mais pendant très longtemps, on était en incapacité soit de lever, soit de s'endetter, parce que s'endetter, il faut avoir des fonds propres, on n'en avait pas très, enfin, très peu. Et pour lever, il faut avoir un business model fiable. Enfin, on l'a bien posé avec le de marché, etc., ce qu'on n'avait pas à l'époque. Et donc, en fait, la seule solution qu'on avait, c'était continuer à développer le projet sous le format organique, étape par étape, et sans avoir beaucoup de moyens. Et je pense que c'est plus compliqué, même si on a pu se donner des salaires assez tôt, hein, finalement, mais c'est mm-hmm. ça, compliqué, mais ça permet aussi de s'économiser en termes d'argent. Je pense mm-hmm. qu'on aurait eu typiquement 200 000 euros l'entrée du projet. Je pense qu'on serait à la même étape aujourd'hui, mais juste on aurait dépensé 200 000 euros de plus en réalité. Je pense pas que c'est ouais. un élément déterminant.
Et donc, mais ça a été... du... ouais. Non, vas-y, vas-y.
Ah ben, du coup, ça a été étape par étape. Et pour nous, un des éléments majeurs, ça a été que bah, le touch aussi, il y a quand même un aspect sympathique qui est très fort, parce qu'on s'intéresse à l'inclusion des personnes qui sont quand même oubliées dans le domaine sportif. Et on a très vite en fait gagné des concours assez importants, donc des concours mm-hmm. de start-up. Et ça a été une des plus grosses forces pour nous. On a notamment gagné un Change Event Tech, donc qui est un change organisé par Orange, Cisco, Ericsson, le COA, enfin que des très grosses entreprises. On est arrivé premier sur quasiment 140 candidatures, je crois. Donc mm-hmm. ça, c'était le 2 semaines après avoir perdu le petit concours étudiant à Toulouse, dégoûté. Enfin, le monde s'est écroulé mm-hmm. après avoir abandonné ses études mm-hmm. pour un projet et on perd le concours un peu deg. Donc là, celui-ci, mm-hmm. on gagne. Et donc là, je me dis, ouais, il y a quand même des grands acteurs sportifs dans ce concours-là qui présentent un intérêt. Donc, je ne sais pas si économiquement c'est viable, mais en tout cas, il y a un intérêt, il y a un besoin à l'utilisateur. Il y a un besoin aussi mm-hmm. côté sportif pour les institutions. Donc peut-être qu'il y a des planètes qui peuvent s'aligner. Donc,
ouais. Bon, quand tu gagnes ces concours, tu gagnes aussi parfois des petits chèques ou de l'accompagnement.
Non, ouais.
Ça permet de financer un petit peu le développement. Aujourd'hui, sa vie comment ? C'est quoi les grands agrégats économiques de Touch2C ? Tu vis en autofinancement, tu as levé un peu d'argent, tu as de l'emprunt ou de la dette bancaire. Raconte-nous un petit peu, fais-nous un petit peu le panorama économique et exploitation ouais. de la boîte.
Avec plaisir, ouais, tout à fait. Donc, pour revenir sur les concours, hein, déjà sur l'argent qu'on peut gagner en concours, en général, on gagne entre 5 et 10 000 euros. Et nous, sur l'ensemble mm-hmm. du projet, il faudrait que je recompte, mais il me semble qu'on a gagné à peu près 70 000 euros. Plus sur le Change mm-hmm. Tech, on a gagné un accompagnement par le COA, qui est le commissaire aux études atomiques et aux énergies, qui nous a mm-hmm. accompagnés pendant quasiment 6 mois avec des ingénieurs qui ont développé la solution avec nous sur un projet de collaboration mm-hmm. Dû au concours.
Ah ouais.
Donc, au-delà de...
Tu as passé un step en termes de technicité et de, ouais, d'excellence technologique du produit.
Ouais. Ouais, il y a eu tout un temps de prototypage, on pourra revenir, c'est 2-3 anecdotes là-dessus. Et donc, sur l'aspect purement financier, je crée la structure en juin 2022 avec 6 000 euros. En octobre-novembre 2022, on fait une augmentation de capital parce qu'il y a Frédéric et Théo, deux personnes avec qui, du coup, Frédéric, le directeur technique, qui m'ont rejoint sur l'aventure. Et j'avais la volonté qu'ils puissent prendre des parts au capital. Donc, on fait une nouvelle augmentation de capital. Donc là, on commence à se verser nos premiers salaires fin 2022, je crois. Et on fait encore une nouvelle augmentation en juillet 2023. Mmh. Et depuis, on n'en a pas fait de nouvelles. Et le projet n'est pas endetté ou alors très peu. Et il n'y a pas eu de dilution. Il n'y a pas eu de dilution du coup. Et donc, pour l'instant, on est vraiment sur un format de croissance organique, c'est-à-dire qu'on consomme l'argent qu'on gagne et on gagne pas plus d'argent, enfin on n'a pas plus de subventions qu'une entreprise, qu'une autre entreprise. Ouais. On a les mêmes avantages, on va dire, ou les mêmes inconvénients.
Ouais. Ouais. Et explique-moi, bon là tu sens que tu as une traction, le projet est visible, le projet suscite aussi beaucoup d'admiration et d'envie de vous accompagner. Je pense que vous avez beaucoup de vibes positives autour de ce projet. Ouais. Parce qu'il coche pas mal de cases intéressantes en 2024. Est-ce que vous êtes passé à la phase « Ok, bon bah, at scale, ce produit-là, il peut venir en aide à X nombre de personnes, c'est X nombre de personnes, ça représente tant de chiffre d'affaires par personne, et donc le marché de notre produit, c'est à peu près ça. » Est-ce que vous avez fait cet exercice maintenant ?
Oui, en fait, oui, tout à fait. On a eu des études de marché, on connaît... typiquement le nombre d'éditions visuelles dans le monde entier, on connaît le nombre de stades, donc on peut arriver à faire des ratios assez simplement de profondeur de marché. Pour nous, une des métriques les plus intéressantes, c'est combien on peut retrouver de déficients visuels en stade. Parce que peut-être pour rappel, nous on cible 3 marchés. Le premier, c'est B2B, donc cibler les événements sportifs réguliers, donc typiquement équiper un club pour que le club ait sa propre flotte de tablettes qui puisse en bénéficier en autonomie, équiper les événements sportifs exceptionnels, comme la Coupe du monde de rugby, les JO, etc. Donc là, on fait un déploiement qui est exceptionnel. Et le dernier, c'est le B2C. On vient cibler du coup pour les particuliers. Mais celui-ci, on s'y intéressera que dans un second temps. Donc pour l'instant, nous, sur cette étape...
Il est plus compliqué.
Oui, pour nous, comme on est sur
un... plus compliqué, plus coûteux.
Oui, exactement. À cibler, c'est quand même très compliqué. Surtout avec un produit industriel qui est nouveau. comme nous, la fiabilité, mmh. elle vient quand même avec le temps. Si on diffuse des tablettes un peu partout qu'elles ne sont pas fiables, ça va être un véritable enfer.
Ouais.
Donc, il vaut mieux cibler les
Ça coûte combien une tablette pour un club
C'est compliqué enfin, d'avoir un prix exact, okay. mais c'est vraiment très abordable. Mmh. Nous, déjà, on fonctionne sur un prix qui est annuel récurrent. Donc,
mmh. et donc c'est de l'abonnement.
Qui est donné, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, c'est tous les ans, il faut payer. Et sur le coup, on est mmh. quasiment à peu près à deux fois le prix d'une place dans un stade. Donc, le club D'accord. ou une tablette, en gros, va payer quasiment deux fois le prix.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très coûteux, c'est-à-dire que c'est une solution qui peut quasiment s'autofinancer par le public lui-même qui vient au stade. Mmh. Mais ce qu'on va dire au stade, c'est qu'on ne va pas lui faire gagner de l'argent, on ne va pas forcément lui en faire perdre. En attendant, il va atteindre ses objectifs sociétal. Ouais. Même, c'est des solutions qui peuvent être financées par des sponsors, par plein de choses autour.
Ouais. Ouais. T'as à peu près périmétré ton potentiel de ouais. business. Tu nous as pas dit exactement ce que ça représentait en argent sonnant et trébuchant. Je sais pas si tu le sais déjà.
En profondeur.
Si on parle de, ouais, c'est-à-dire, est-ce que c'est un marché ouais. de 400 millions? Est-ce que c'est un marché de 300 millions? Ouais. Est-ce que c'est en nombre d'utilisateurs? Comment tu l'as périmétré?
C'est extrêmement intéressant parce que un projet comme le nôtre a une profondeur de marché qui est très faible, certainement inférieure à 50 millions d'euros. Donc c'est très faible. Mais de l'autre côté, on a une acceptabilité, un caractère sympathique du projet qui est très fort. Donc, ça, c'est un énorme avantage. Et je pense une barrière à l'entrée qui a été assez faible, puisqu'il n'y avait pas de concurrent jusqu'à présent. On a pu déposer nos propres brevets. Donc, on a pu barrer la route à ceux qui souhaitaient venir par la suite. Donc, nous, comme on l'a construit, c'est un projet qui, effectivement, ne peut pas devenir une licorne ou quoi que ce soit. Mais qui démontre une réelle viabilité et qui nécessite relativement peu de capitaux de la manière dont on a développé. Quoi. Aujourd'hui, on peut continuer sur une forme organique sans lever en développant ce projet-là. Sachant qu'on a réussi à briser une fameuse règle. En gros, très généralement en France, pour sortir un premier produit fonctionnel hardware, une règle qui s'applique dans beaucoup d'entreprises, j'ai l'impression, c'est quasiment un ou deux ans de recherche-développement et surtout un million d'euros dépensés en recherche-développement ou en prototypage. Quoi. Donc, argent qu'on
n'avait pas. Aujourd'hui, vous êtes combien chez TouchSouci et c'est quoi un peu les grandes fonctions de la boîte?
Là, aujourd'hui, on est 6, donc 2 alternants, 4 salariés et 2 stagiaires. Et on a recruté 2 personnes là, depuis janvier. Et sur les fonctions, il y a le directeur technique, donc Frédéric. Il y a un directeur technique, un responsable de production, donc sur la production, donc sur les tablettes en elles-mêmes. Donc moi-même, du coup, salarié, où je fais toutes les tâches un peu administratives ou gestion de projet. Et ensuite, on a un alternant en communication, gestion de projet, un en technique, du coup, 2 stagiaires. Donc moi, bon, là, c'est en communication et en aide de production, on va dire.
D'accord. OK. Oui. Vous êtes toujours... vous êtes basé à Toulouse. Toute ton équipe est à Toulouse?
Oui, absolument. Donc, nous, on est à Toulouse et on travaille sur un format qui est 100% présentiel.
OK.
Et qui est assez rare, je pense, maintenant.
Ouais. Après, dans le hardware, je pense que c'est un peu nécessaire.
Oui, c'est nécessaire. Et surtout, je pense qu'on a quand même une charge de travail qui est très importante. Et c'est un projet qui évolue très vite. Donc, le présentiel, je pense que dans ce cadre-là, comme il n'y a rien qui est vraiment automatisé ou figé, c'est vraiment une nécessité, à mon avis.
Ouais. Il me semble que tu as équipé la Coupe d'Afrique des Nations.
Ouais,
tu peux nous expliquer ce deal qui est un des peut-être deals les plus forts, symboliques et peut-être importants même en termes de business?
Oui, tout à fait. Bah, déjà, si on revient sur le développement hardware, purement hardware, déjà, on réalise nos premiers tests techniques réalisés en stade, il me semble, vers juin 2023, finalement. Donc, ça a été assez tard pour avoir vraiment un produit purement fonctionnel. Donc là, on avait amené du coup les tablettes faites en 3D, en prototypage, donc imprimées en 3D en stade. Donc nos premiers tests, ça a été à l'Orange Vélodrome. Peut-être on pourra revenir aussi sur la donnée sportive, comment ça vient comment ça fonctionne. Ouais, donc ces premiers tests à l'Orange Vélodrome, on avait apporté 4 unités. Et ça devait être un peu plus tôt qu'en juin, parce qu'il faisait quand même assez froid. Et je sais que là, on apporte tout, donc ça fait quand même des mois qu'on se prépare, qu'on dort pas et tout ça pour pouvoir enfin les mettre en place et tester la donnée sportive, etc. en live. Et il se trouve que là, on allume tout et rien ne démarre. Et la raison, c'est qu'il faisait quand même assez froid, je sais plus exactement combien il faisait, mais du coup, nos moteurs, parce qu'on a des moteurs bon, très classique, hein, électronique, qui démarrait pas parce qu'il y a de l'huile dedans et l'huile s'était figée. Donc c'était bien avant juin.
D'accord.
Et donc, tu vois, face à ça, on se dit, ah non, c'est pas possible et tout ça, parce que là, on a quand même des délais qui étaient très très chauds. Et à ce moment-là, on vient, nous, les réchauffer ces tablettes-là au sèche-main dans les toilettes. Donc, pire idée, parce que des tablettes imprimées en 3D, ben, on utilise du PLA, donc c'est du plastique qui fond en 60 degrés. Et donc, on s'est retrouvé sur nos quatre tablettes déjà, en avoir deux qui avaient fondu. Donc, impossible,
D'accord.
elles fonctionnent pas. Donc, déjà
Bon, je
dégoûté.
rigole, mais c'était pas drôle.
Ah ouais, voilà, ben dégue. Et
Ouais.
bon, au final, il y en a deux qui ont fonctionné. Donc là, on est vraiment sur la fin du premier trimestre, en tout cas 2023. Et là, on démarre avec le CEA. Enfin, on était bien avancé, mais on arrive quand même sur les premiers prototypes, etc., qui nous donnent. Et on arrive du coup, par la suite, fin août, où on arrive à avoir 14 unités fonctionnelles, donc développées avec le CEA, donc qui n'étaient plus des prototypes, mais des réels produits fonctionnels. Et donc là, on se trouve fin août. Et déjà, il y a la Coupe du monde de rugby qui démarre. Et on échange avec l'organisateur, parce qu'on avait quand même, on échangeait depuis quelques temps, mais on n'avait pas la possibilité de leur donner le go ou pas go, quoi, parce que les délais étaient trop compliqués pour
Ouais.
nous avant, parce que ça aurait pu ne pas marcher 2 semaines avant, quoi, on ne savait pas. Donc à ce moment-là, on a 14 unités, et ils nous donnent le go, donc il y avait une possibilité qu'on fasse un déploiement en grande échelle, etc., mais comme on n'avait que 14 unités, bon, ça a été ciblé finalement que sur toutes les phases finales. Donc on a couvert 10 matchs, donc c'était pour nous vraiment une très grande chance, c'est-à-dire que à peine les produits terminés, qu'on est directement passé dans des compétitions quand même internationales. Donc ça, c'était une opération qui s'était faite avec GMF et Orange. Donc ça a été magnifique. Donc en 5G dans les stades, avec la donnée, etc. Et donc après,
Ouais.
il y a eu un petit laps de temps. On a enchaîné sur la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, ça a été magnifique. Donc cette année, ça a été fait en février. Donc c'est une compétition qui est vraiment mondiale. Et là, il y a plein d'autres difficultés pour pouvoir y aller. Et là, ça a été magnifique. On l'a faite avec Total Energy. Donc on y allait deux fois. Deux fois deux, enfin deux semaines du coup, deux fois une semaine. Et là, on a pu faire vivre la solution avec plus d'une dizaine de personnes à chaque fois. Donc, ça a été vraiment exceptionnel. Et peut-être sur des compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est des compétitions qui sont très jeunes. Enfin, très jeunes. L'esprit sportif, je pense que c'est celui qu'on pouvait avoir en Europe il y a assez longtemps. C'est-à-dire que les valeurs du sport sont encore plus fortes. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui peuvent s'affronter sur le terrain. Qui n'ont pas de dialogue diplomatique ou quoi que ce soit. Et je trouve que les valeurs qui sont passées à la CAN, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont beaucoup plus fortes que dans d'autres compétitions que j'ai pu faire à côté, quoi. Et donc, ouais, la CAN, c'est d'autres enjeux, parce qu'il y a quand même le transport en avion, etc. pour les tablettes, c'est très compliqué. Et pour nous, par exemple, on a des cellules. On a 4 cellules par tablette. Donc, quand on en emmenait 14, ça faisait 14 fois 4. Donc, ça commence à faire pas mal de cellules. Donc, c'est les mêmes cellules qu'on utilise notamment dans les cigarettes électroniques. Et je pense que
D'accord.
si tu veux, petite anecdote, des cigarettes électroniques, on a le droit qu'à 2 cellules par personne dans l'avion. Donc, nous, on s'est retrouvés avec plus d'une fois 4, bon, enfin, plus d'une quarantaine de cellules comme ça en douane, etc. Ça a été toujours très compliqué pour tout faire passer. Et au final, c'est bien débrouillé. Ouais. Et ouais.
Non, super. C'est des super anecdotes. Merci, merci de partager ça. Bon, là, tu as un peu décrit espèce d'embellie, de bel élan que tu as et que tu as sur le projet. Est-ce que tu vois des éléments qui te font douter sur ce projet ou il y a des choses qui. Je dis souvent, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient tout faire foirer? Et si oui, lesquels?
Ouais, carrément. Déjà aujourd'hui, il y a quand même sur le défi qu'on s'était donné, c'était d'automatiser la solution pour pouvoir la diffuser à grande échelle. C'est-à-dire que nous, notre business model, il est viable uniquement si on arrive à distribuer la solution dans des dizaines et des dizaines de stades, et ce, de manière entièrement automatisée. C'est-à-dire que nous, on reste dans nos bureaux, et les tablettes fonctionnent elles-mêmes. Et pour ça nécessite d'avoir une donnée sportive qui est d'excellente qualité, et qui fonctionne vraiment très bien en ultra live, etc. Et en fait, pendant assez longtemps, on avait un réel doute. On l'a encore eu dernièrement, et en fait, ça a remis en compte les prérequis du projet, quoi, technique. Donc ça a été déjà très compliqué. Et après, ça a été vraiment le problème majeur, c'était vous voulez cibler des non-voyants, mais est-ce que les non-voyants viennent au stade? Et ça a été un sujet qui était très compliqué, parce qu'aujourd'hui, nous, on est certain, on a d'excellentes statistiques sur les déploiements, etc. Mais un club qui a jamais mis en place une solution pour les non-voyants, il s'étonne lui-même, ben, attendez, nous, on va rien mettre en place parce qu'on n'a pas ces personnes-là. Et du coup, nous, on doit leur expliquer que tout vient avec tout. S'il n'y a rien qui a été mis en place depuis des années, bah effectivement, qu'il y aura une population qui sera relativement faible dans les stades. Mais si vous regardez vos amis qui sont à 200 km, ils travaillent sur ces sujets-là, etc. Ils ont une population assez importante. Aujourd'hui, dans un stade, on peut avoir jusqu'à. Enfin, aujourd'hui, en l'état, sans notre solution qui apporte vraiment une solution, enfin, qui apporte vraiment en plus, on peut croiser des. Enfin, on va avoir des stats qui ont jusqu'à une trentaine de personnes, voire plus par match.
Mmh. Ok.
Ouais.
Bon, c'est hyper intéressant. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu as des. Comment dire ? Est-ce que tu t'es fixé une ambition ? Tu parlais tout à l'heure d'un marché à 50 millions. Est-ce que là où il y a quelques temps tu vivais un petit peu au jour le jour et tu ne sais pas vraiment où t'emmener ce projet,
oui.
Là tu t'es dit maintenant on se projette à 3, 4, 5 ans et quand on regarde la photo que tu te construis à 5 ans, oui. Ça ressemble à quoi Touch2C ?
Oui, ouais, tout à fait. Donc effectivement aujourd'hui on a un cap qui est très clair avec toutes les variables qui sont bien posées. Et ça va être délicat de donner des chiffres exacts aujourd'hui, mais on souhaite adresser plusieurs marchés, donc déjà les marchés européens et nord-américains sur la solution. Donc ça va aller très vite. Et par la suite, on développe également des projets parallèles. Parce qu'en fait, là, je pense qu'une des vraies forces du projet, c'est de nous amener sur une position... je sais pas comment dire, mais... En fait, on a de nouveaux projets qui sont en développement, notamment dans tout ce qui peut être fan expérience. Et le projet en lui-même, Touch2C, nous donne une position très favorable pour attaquer ces autres projets. Même une position un peu qui pourrait être anticoncurrentielle par rapport à d'autres. Donc, en fait, c'est un projet qui enchaîne très bien sur d'autres. Ouais. Et donc, je pense que voilà, nous, notre avenir.
Tu peux pas en parler.
Dans l'handicap, c'est toujours délicat de pouvoir en parler, mais notre avenir, c'est dans l'handicap, mais dans tout ce qui peut être donné, etc.
Ok.
Peut-être.
Dis-moi.
Chiffres. Là, du coup, on a la première année de commercialisation. Donc, on a recruté notre commercial en janvier, donc il y a 3 mois. Donc, sur cette première année, on a un objectif. Enfin, on va certainement dépasser les 500 000 euros de chiffre d'affaires.
Ah ouais, sur l'année.
Ouais.
L'année 2, quoi. Ou 3, même pas.
Ouais, mais en fait, les autres années, on était en plein.
Ouais, vous étiez en développement. Ouais. Donc, c'est l'année 1. Tu la considères comme l'année 1, quoi.
Ouais, c'est exactement. Ouais. Donc. C'est quand même de très bons résultats pour une première année sans lever, sans dilution.
Ouais, c'est super.
Ouais, ouais, ouais.
Bravo. Même si ce n'est que le début.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ouais. Du coup, c'est quand même une notion qui est importante parce que, surtout dans la French Tech, même dans l'industrie des startups, ça peut être un peu dénigré ce genre de projet qui peuvent plafonner en fait, assez bas en termes de chiffre d'affaires maximum. Mais en fait, c'est des projets qui peuvent aussi être tout à fait viables. On peut l'oublier. Mais une entreprise qui fait 10, 20, 30 millions de chiffre d'affaires peut très bien générer des marges, etc. C'est juste que la taille ne sera pas très importante.
Ouais.
Peut tout à fait être viable. Et aujourd'hui, on l'oublie un petit peu, ces projets peut-être de taille intermédiaire, là où il y a des entreprises qui font des centaines ou des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est...
Ouais.
C'est important. Et en termes de valeur ou d'importance dans la société, je pense qu'on peut apporter tout autant. Enfin, un projet a vraiment un impact qui est fort. Quoi.
Je ne sais pas si tu connais la fondatrice de l'Uni.
De l'Uni.
Ouais. L'Uni, c'est des petites boîtes à histoire pour les enfants.
Ah oui, tout à fait.
Qui a été créée par Maël Chassard.
Oui.
Ton histoire, alors, avec beaucoup, beaucoup de différences, etc. Mais c'est pareil, c'est quand même l'idée de créer du hardware au départ en France pour adresser le marché de. En fait, de l'éducation pour enfants, d'essayer de leur faire faire la construction d'histoire, de pas qu'ils soient pas sur des écrans. Mais je me dis que c'est un conseil que je te donne, mais je te le donne pas. Tu fais bien ce que tu veux, mais je trouve que la trajectoire qu'elle a eue, bon, qui est une super belle trajectoire, mais aussi sur comment tu passes at scale sur du hardware quand en France tu peux pas vraiment vraiment produire industriellement des choses. Et finalement, elle est revenue, il n'y a pas si longtemps que ça, sur une production 100% française. Je sais qu'elle est passée dans pas mal de podcasts et voilà, je me dis que ce serait une histoire assez intéressante à écouter de ton côté et pour peut-être un petit peu t'accompagner dans ton parcours aussi, tu vois.
Oui, absolument. J'ai déjà entendu parler de ce projet, ce qui l'a beaucoup marqué en termes de conception. Il me semble que ça a été quand même très innovant sur l'aspect hardware.
Oui.
Ce que j'ai entendu. Et je pense que pour les entreprises hardware, un des principaux enjeux, c'est le BFR, donc le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que si on est dans une dynamique de croissance, en fait, en général, on doit avancer de l'argent pour pouvoir
financer des produits
avant de pouvoir vendre. Ouais. Donc ça nécessite beaucoup de capitaux. Donc plus on croit vite, plus on en a besoin. Et le modèle qu'on a développé permet certainement d'avoir un BFR qui est neutre ou peut-être même négatif.
Ouais. Bah, je te souhaite.
Ça, c'est des cycles de production qui doivent être très courts. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est notamment possible avec une production française.
Ouais. Les petites questions de la fin.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais me citer une actualité de l'écosystème sport qui a particulièrement attiré ton attention ces derniers temps ?
Une actualité de l'écosystème sport ? Il y en a énormément. Peut-être une des plus importantes. Bah, je pense quand même qu'une des plus importantes, ça reste quand même avec les JO. Hein. Enfin, là, l'écosystème sport, il est vraiment centré sur les JO. Mm-hmm. Et, je pense que c'est une compétition qui est vraiment extraordinaire pour beaucoup d'entreprises qui vont y participer. Mais c'est quand même très spécifique en termes de ciblage.
Est-ce que Touch aussi va y participer ?
Ah mince. Je crois que j'ai entendu dire qu'il y avait un projet qui était équivalent, qui sera présent.
Mais c'est vrai ? Ouais, on n'a pas parlé de la concurrence. Tiens, j'ai failli à mon devoir.
Ouais.
Ouais.
On est seul, mais nous, on n'a pas le droit de dire si on y sera ou pas. Mais je crois qu'il y aura un projet qui sera équivalent, peut-être.
D'accord.
Ouais.
Okay.
Donc, on est seul. Qui ça va être, je ne sais pas.
D'accord.
Ouais. Okay. Et donc, ouais, autrement, je pense que la filière sport, hein, dans sa globalité, elle a quand même eu un très bon élan. Hein. Je pense qu'il y a eu quand même la Coupe du monde de rugby.
Ouais.
Les JO, je pense que ça a quand même beaucoup propulsé. Ouais. Du coup, je pense maintenant l'immense enjeu par la suite, surtout après les JO, ça va être d'exporter à l'étranger, à mon avis, pour pouvoir passer un peu l'échelle ouais. du projet qu'on puisse créer. Je pense que ça va être un immense enjeu là-dessus.
Ok.
Et autrement, il y a peut-être si je peux rajouter, mais nous, on est
quand même
sur l'écosystème sport et notamment via la donnée sportive. Donc, mm-hmm. la donnée sportive, c'est vraiment quasiment un miracle hein, ce qu'ils font maintenant. Donc, nous, pour rappel, la donnée sportive qu'on utilise, c'est une donnée qui est déjà existante dans le marché. Donc, on en fait juste un usage nouveau. Donc, mm-hmm. c'est en ultra live avec 150 millisecondes de latence, la position des joueurs, du ballon et tout ce qui est événement. Et cette donnée-là, elle a quand même été marquée par tout ce qui est le casque d'Apple, donc le studio.
Ouais, l'Apple Vision Pro.
Oui, exactement. Et on peut voir en fait des représentations des mouvements des joueurs, du ballon, etc. en temps réel. Et je pense que c'est des projets qui sont très bien établis.
Ouais.
Donc, ça représente aussi ce qu'on peut faire en termes de données sportives. Ouais.
Ça, c'est en effet une actualité qui, dans le monde du sport, n'est pas du tout passée inaperçue. On a des boîtes, notamment de la Sportech, je pense à immersive.io, oui, qui est particulièrement investie dans l'enrichissement de l'expérience à travers l'Apple Vision Pro.
Oui.
Moi, c'est en effet un truc qui me titille de dingue. Ça vaut une fortune, mais j'aimerais même l'acheter pour vivre un peu l'expérience.
Oui, c'est magnifique. Ouais. En plus, c'est vraiment, je pense, un marché qui s'est... un peu immersif, qui a eu une énorme accélération, j'ai l'impression, en quelques temps.
Ouais.
C'est vraiment intéressant.
Bon, écoute, ouais. Je te remercie infiniment, Arthur. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre ?
Nous, on a un projet qui se développe très bien. S'il y a des fans de sport, de technique, ou peut-être engagés sur ces questions d'handicap, on va être amené quand même à grandir notre équipe prochainement. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent être intéressées, vraiment, elles peuvent nous contacter directement. Et si il y a des personnes qui sont non-voyantes, qui écoutent également ce podcast, on fait quasiment un ou deux déploiements par semaine actuellement. Donc, elles n'hésitent pas à nous contacter. On pourra les intégrer à nos prochaines dates, si elles le souhaitent.
Et bah, super pour ce petit message et ce petit appel de la fin. Je te remercie infiniment, Arthur. Vraiment, un grand bravo. Même si ce n'est que le début, mais j'ai adoré écouter ton histoire et j'espère que tu iras et que vous irez bien loin.
Merci beaucoup.
Allez, à très bientôt, au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.